Comme c'est vrai qu'on va pas se mettre à prendre ces préceptes à la lettre. Je crois, moi, ce qui m'a intéressé, c'est de voir que c'était pas que la parenthèse au fond n'est pas tout à fait fermée et qu'il y a une certaine curiosité, en tout cas, qui chez moi, il y avait une certaine curiosité quand je lisais ça, et que ça m'intéressait assez de voir comment ce manuscrit avait été construit.
Pour en finir, on va se faire encore un petit plaisir. C'est au sujet des enfants. Alors, comment savoir si ce sera une fille ou un fils, ou bien comment influencer encore le mental de son bébé?
Quand une femme porte un enfant et que l'on veut savoir si elle porte fils ou fille, on doit mettre en son sommeil du sel sur sa tête sans qu'elle s'en aperçoive. Et ensuite, devisant avec elle, faire attention au premier nom qu'elle nommera. Si elle nomme un homme, elle aura un fils. Si elle nomme une femme, elle aura une fille. Je dis, pour aussi vrai et certain qu'évangile, que lorsqu'un homme couche avec sa femme ou son ami en ayant les pieds sales et puants, et s'il advient qu'il engendre un fils, ce fils aura puante et mauvaise haleine, et si c'est une fille, elle l'aura puante par derrière. Quand un homme engendre naturellement un enfant, et si, se rappelant le temps où cela lui advint, il se demande comment il se sentait après le fait, alors il n'a plus besoin d'autre avis. Car quand l'homme engendre un fils, il change peu puisqu'il engendre son semblable. Mais s'il engendre une fille, qui est hors de sa complexion, il s'en trouve fort troublé pendant 2 ou 3 jours. Quand un enfant est né avant qu'il soit baptisé, gardez-vous de le mettre ou de le porter d'abord sur votre bras gauche, car autrement il sera gaucher toute sa vie. Quand une femme enceinte enjambe le timon d'un char, si elle porte un fils, il aura un membre gros et dur à merveille. Et si c'est une fille, elle aura de grosses lèvres vermeilles, aussi bien en haut qu'en bas. Si une femme couche avec son mari et veut avoir plutôt un fils qu'une fille, elle doit tenir ses mains closes pendant que son mari fait l'œuvre de nature. Et alors, pour vrai, elle aura un fils.
Alors voilà, c'était les derniers extraits des Évangiles des Quenouilles, ceux dont nous parlions.
Vous me demandez beaucoup d'efforts quand même, parce que pour s'empêcher de rire quand on lit ces petites phrases, c'est
quelque
chose.
Je te sais très forte pour ça, c'est pour ça que je pensais que tu ferais ça à merveille. On a dit que c'est un livre qui, au 15e, a beaucoup été vendu, enfin a eu du succès. Qu'est-ce que ça veut dire pour un livre, un ouvrage d'avoir du succès au 16e siècle?
Je crois que ce qu'on peut... Oui, effectivement, on vient de vivre le salon du livre.
Oui, justement.
Non, je crois qu'aujourd'hui, on peut prononcer une phrase comme ça simplement en voyant le nombre d'éditions différentes qu'il y a eu, le nombre de traductions. C'est ça que... Mais évidemment, on sait bien que les livres n'étaient pas forcément quelque chose d'une propriété personnelle, qu'il y avait des propriétés par famille, qu'on se passait un bouquin, etc. Et que ces manuscrits étaient imprimés, diffusés. Mais évidemment, on peut pas connaître les tirages et que ces tirages, évidemment, resteraient d'un nombre très, très limité.
Une autre question que je me pose, c'est que vous êtes ethnologue et donc là, on avait un aspect, ce qu'on peut dire, du savoir féminin ou autre, plus global, d'un des aspects de ce savoir au 15e. Maintenant, aujourd'hui, dans ce genre-là, où est-ce qu'on pourrait aller chercher, justement, pour avoir quelque chose d'écrit? Vous, en tant qu'ethnologue, est-ce que ça vous arrive de faire des recherches sur le terrain encore? Ça vous revient à vous ou c'est que les sociologues qui peuvent s'en charger? Enfin, je ne sais pas, l'école de Chapelle.
Ah bon, mais on ne va pas entrer dans les définitions de ces différents termes. Mais je crois qu'aujourd'hui... Bon, non mais quand même, entrons un tout petit peu. Je crois qu'il faut pas on ne peut pas faire une distinction entre, disons, ethnologie ou ethnographie régionale, qui serait la recherche d'un savoir, disons, à la campagne, un peu traditionnel, et puis la sociologie, quelque chose d'un savoir beaucoup plus urbain, de recherche de plus grande dimension, etc. Je crois que les deux, ces gens travaillent en collègues sur des mêmes sujets. Mais, et puis que l'ethnographie peut aussi faire des recherches dans la cité, que... Elle a une approche qui peut être tout à fait intéressante. Mais disons que pour répondre à votre question, je crois qu'aujourd'hui, une des sources, mais il y en a quand même encore beaucoup, et puis quand je dis encore, moi je déteste utiliser ce mot encore beaucoup, parce qu'en fait, le monde se transforme, effectivement se transforme à une vitesse très, très rapide maintenant, mais je crois qu'il y a toujours, il y a toujours, les gens continuent à vieillir, il y a toujours un savoir qui s'accumule au cours d'une vie, et que pour moi, bon, il y a toujours autant d'intérêt à interroger des gens aujourd'hui qu'il y en aurait eu il y a 100 ans. Mais disons que dans un domaine très traditionnel, une des petites mines d'or en ce qui concerne les savoirs traditionnels, c'est probablement les contes et légendes. Parce que si l'on va dans... Alors là, il faut aller en Suisse, dans des cantons catholiques, parce qu'évidemment que la réforme a balayé tout ça d'une façon... totalement radicale. Mais dans les cantons catholiques, on a quand même un grand nombre encore de récits qui sont des récits incomplets et qui... je dirais, navigue un peu dans les mêmes eaux que les évangiles des quenouilles. Sous la forme d'histoire, finalement, on apprend ce que les gens avaient le droit de faire, pas faire, comment est-ce qu'ils réinterprétaient le dogme religieux, comment est-ce qu'ils réinterprétaient les signes qu'ils voyaient, comment est-ce qu'ils arrivaient aussi à trouver un sens à leur vie, comment est-ce qu'ils arrivaient à vaincre leur peur, parce que, en fait... Moi, ce qui me frappe aussi beaucoup, c'est qu'on vivait dans un monde... On dit aujourd'hui qu'on a peur, qu'on a peur de beaucoup de choses, qu'il y a de la violence, ou je ne sais pas. Les gens vivaient dans un monde qu'ils craignaient très, très profondément. Il y avait beaucoup d'obstacles à leur vie quotidienne et ils avaient peur, très souvent peur.
Alors, je vous remercie en tout cas, Christine Détrat, d'être venue nous parler des évangiles des quenouilles. Alors, on le rappelle parce qu'on l'a fait en marge de l'exposition Terre de Femmes qui a lieu en ce moment au musée d'ethnographie annexe de Conches. Et il y aura même toute une animation qui va être faite au musée d'ethnographie à Conches, un de ces week-ends.
Oui, c'est le dernier week-end du mois de mai. Et je crois que si certains auditeurs ont été un peu titillés par ce terme de quenouille, il faut qu'ils aillent au musée d'ethnographie parce que là, ils verront enfin à quoi ressemblent ces quenouilles qui, pour ce qui concerne le Chablais, notamment, étaient des quenouilles qui sont très, très décorées et parce qu'elles étaient offertes en cadeau de mariage ou de fiançailles. Alors, ça donne des bâtons absolument superbes. Qu'un collectionneur a pu récolter au début de, disons, dans les années 20, 30, 40, en grand, grand nombre. Au musée d'ethnographie, on en a plus de 600. Parce que comme c'était un cadeau de mariage, la quenouille, une fois que la personne était décédée, eh bien, on ne la réutilisait pas, on la mettait au grenier et la fille s'en faisait offrir une nouvelle, etc. Donc, il a pu récupérer une...
C'est vrai qu'il y a de très beaux objets. Il y a aussi une démarche qui est à voir. Et nous, on va en reparler du reste de cette exposition Terre de Femmes, puisqu'on va parler aussi des contes et légendes suisses. Enfin, comment dire, pas tellement suisses. Hein, faudrait un peu élargir ça. En pays de montagne, ou je ne sais...
Oui, je crois que vous allez... il y a vraiment beaucoup de manières d'aborder différents thèmes qui sont abordés dans le cadre de l'exposition Terre de Femmes. Je crois qu'il y a, par exemple, le thème de l'imaginaire. Comment est-ce que les gens, alors là, on est effectivement dans un milieu montagnard, alpin, des deux côtés de la frontière d'ailleurs, ça peut aller jusque sur l'Italie, peu importe. Qu'est-ce que c'était la femme? La femme, sous quelle forme est-ce que les gens en rêvaient? Est-ce que c'était un monstre? Est-ce que c'était une fée? Est-ce que c'était une personne bénéfique, maléfique, etc.?
Voilà, ce sera un de nos prochains thèmes. Et pour se quitter sur une pause musicale, pendant que Michelette Houchu, Baudine Camus ou Jacqueline Galloise et bien d'autres à la veillée se racontaient des histoires, on peut imaginer qu'il y en avait d'autres. C'était les Dama di Ferrara, un groupe de femmes assez exceptionnelles qui vivaient en Italie au XVIe siècle, qui étaient d'excellentes musiciennes, qui faisaient bien des envieuses et des envieux du reste. On avait envie de les écouter, on avait envie de les rivaliser. Alors vous, on vous propose un de leurs thèmes favoris, je dirais, aujourd'hui. Vous êtes toujours à l'écoute de Remue Ménage sur Radio Zone 93.8 et ça continue. Nina Simone.
Now if your mind lies in the devil's workshop and evil doing's your thrill, the trouble and mischief is all you live for, you know done well, and that you go to hell, that you go to hell. So you're living high and mighty, rich off the fat of the land. Just don't dispose of your natural soul, 'cause you know done well that you'll go to hell, that you'll go to hell. Say hell where your natural soul burns, hell where you pay for your sins, hell keep your children from wrongdoing, 'cause you know done well that they'll go to hell. Created hell to live for eternity, hell, but an apple they ate from the tree of age, so you know done well now they went to hell, they went to hell. Now Satan was an angel in heaven, but he stirred up trouble and woe. So the Lord commanded the devil be branded, so you know done well he went to hell. Yeah, yeah, he went to hell. Yeah, he went to hell. He went to hell. We'll be right back.
Bellstar. Bellstar, c'est une one bad woman in the West. Et sur les airs de M. Sergio Leone et Ennio Morricone, nous allons parcourir le chemin de cette mauvaise femme de l'Ouest. Elle est née en 1848. Elle reçoit, le jour de son baptême, le nom de Mirabel Shirley. Elle est née dans le Missouri. Son père a une ferme. Il fait de la politique. Elle prend des leçons de piano et va suivre l'académie féminine jusqu'au 8e degré. En 1863, les soldats de l'Union, les sudistes, tuent son frère Ed, qui a rasié la ville deux fois de suite avec sa bande. La ferme familiale y passe, elle brûle dans la deuxième attaque. Et toute la famille déménage pour le Texas. Juste avant de déménager, Mirabel tente une grande vengeance. Prenant une paire de revolvers, elle rejoint les troupes de guérilla des confédérés, les nordistes, se proposant comme informatrice. Elle a 15 ans. Installée au Texas, son père et son frère aîné l'envoient à nouveau à l'école, essayant de maîtriser ses tendances à l'insolence et à la violence, mais sans succès. La ferme familiale devint le refuge de la guérilla, dont le courage la fascinait. En 1866, elle a 18 ans. Quatre des frères Younger, de Sacré hors-la-loi, prennent le large au Texas avec Frank et Jesse James. J'espère que ces noms ne vous sont pas tout à fait inconnus. Après avoir attaqué la banque de Liberty dans le Missouri, Mirabel, jeune fille de 18 ans, comme je vous le disais, ne voit pas, elle, de grande différence entre les exploits de la guérilla confédérée et ceux de ses bandits. Et lorsque le gang, Younger James, retourne au Missouri, quelques mois plus tard, devinez, elle est enceinte. Elle ne verra jamais le père, Cole Younger, mais plus tard, elle dira s'être mariée avec lui secrètement. Cole Younger, quant à lui, a même quelquefois dit ne l'avoir jamais connu. Bref, elle laisse sa fille Pearl aux beaux soins de ses parents pour aller à Dallas, où elle s'en sort fort bien, en jouant aux cartes, en chantant dans les cabarets, et sûrement aussi en vendant ses charmes. Et là commence sa vie de bad woman of the West. S'habille en homme et est sûrement le desperado non identifié qui, avec John Younger, le jeune frère du père de sa fille, tue le shérif de Dallas en 1871. Un an plus tard, elle rencontre un jeune voleur de chevaux du Missouri, Jim Reed. Il semble que la cérémonie de mariage se soit déroulée sur le dos de leurs chevaux. Le couple va rechercher la jeune Pearl pour aller vivre dans le Missouri, où Jim Reed a rejoint un groupe de voleurs de chevaux. Belle Reed, puisque tel est désormais son nom, est une cavalière accomplie, avec toujours un revolver à sa ceinture. Elle aide et conseille les voleurs et fait parfois partie des expéditions. Après une histoire de meurtre entre gangs rivaux, les Reeds doivent fuir en Californie. Belle a un deuxième enfant, Ed Reed, né à Los Angeles. Mais ils doivent s'enfuir à nouveau parce qu'on les suspecte d'avoir commis un vol près de San Diego et parce qu'on promet une bonne récompense à qui retrouvera Jim Reed. Jim va se cacher en territoire indien. Belle le suit, laisse ses enfants chez ses parents. Ils se retrouvent dans le ranch de Sam Starr au bord de la rivière Canada, qui est une célèbre retraite pour les hors-la-loi du coin. En 1873, elle a 25 ans. Belle, dans son habillement masculin, est mêlée à des affaires de plus en plus dures. Le gang Reed Star torture une famille d'Indiens pour leur voler un trésor évalué à 30 000 dollars en or. Ils pillent les magasins, ils vendent du whisky aux Indiens, volent les trésors des tribus, des troupeaux, bêtes à cornes et chevaux. Souvent, pourtant, Belle ne participe pas aux actions même, elle les organise, puis trouve des acheteurs pour ce qui a été volé et s'arrange mystérieusement pour faire sortir de prison les membres du gang arrêtés pour diverses accusations. Elle-même sera arrêtée lors d'une fête bien arrosée, suspectée d'avoir incendié une ferme. Mais un commerçant amoureux payera sa caution. Est-ce son allure de femme d'action qui brandit ses revolvers qui attire ces messieurs ? Il semble que ce n'est pas pour sa beauté qu'on l'estime, mais pour sa façon de mener sa bande, tout autant que pour ses talents érotiques. Jim Reed s'est fait finalement tuer par un shérif près de Paris, Texas. Vous connaissez ? Belle devient Belle Star en épousant, peut-être, Sam Starr, un des membres du gang. En 1882, elle se fait prendre avec lui en volant des chevaux. Mais ils sont condamnés à une petite peine, 9 mois. Et 9 mois plus tard, ils sont de retour dans ce que les journaux du coin appellent le trou de l'enfer, Hellhole. Pendant que Sam Starr vole le trésor de la nation Creek, Belle s'envole avec un autre membre du gang. Sam Starr les retrouve, bien sûr, et écarte son rival définitivement, mais autorise Belle à revenir dans son lit, dans sa bande. Et à ce titre, ils se retrouvent tous les deux sur le mur de tout l'État. On promet une récompense de 10 000 dollars en coin d'or qui sera payée par le gouvernement américain pour la prise mort ou vivant de Sam et Bellstar, recherchés pour vol, meurtre, trahison et autres actes contre la paix et la dignité des États-Unis. Et c'est signé, bien sûr, le majeur du Missouri. Le gang a commis tellement d'horreurs, dans les tribus indiennes en particulier, du territoire où se trouve leur repère, le trou de l'enfer, que Bellstar, sentant que les conseils des tribus deviennent enragés contre eux, conseille à son chéri de se rendre aux autorités américaines pour une histoire de vol plutôt que de devoir affronter un tribunal indien. Mais juste avant Noël, à une soirée dansante, Sam Starr se fait reconnaître et éliminé par un policier indien avant d'avoir pu appliquer les conseils de Bell. Son troisième mari mort, Bell récupère ses deux enfants, Pearl Younger de son premier mari et Ed Reed de son deuxième mari. Deux ans plus tard, Ed se retrouve au pénitencier et Pearl, qui a déjà eu une petite fille illégitime et envoyée chez des parents, remarquez que l'histoire se répète, n'est-ce pas, ne le dit-on pas. Donc Pearl travaille avec beaucoup de succès comme madame dans une maison close du territoire. Elle est bien plus jolie que sa mère et dans sa clientèle, on trouve parmi les cow-boys à l'heure la loi, les Dalton. Belle se marie pour la quatrième fois. Un jeune Indien, Creek, voleur de chevaux instruit. Mais Jim Julie, en 1889, un jour qu'elle revient de Fort Smith, où Jim a dû répondre d'une accusation de vol, elle s'arrête chez un voisin dénommé Watson, qui veut lui louer du terrain. Ils en viennent à élever fortement le ton, se reprochant mutuellement d'être l'objet de trop de recherches de police. Cet après-midi-là, deux hommes entendent des coups de feu. Ils voient le cheval de Belle, la selle vide, et trouvent la femme qui s'était fait connaître comme la reine des bandits, la face contre terre, tuée un coup dans le dos. Ne croyez pas que la reine des bandits fut tuée pour une querelle de mots. Jim Julie, son Indien de quatrième mari, fait arrêter le fameux voisin Watson, l'accusant de l'assassinat de Belle. Quelque temps plus tard, cependant, on apprend qu'il a offert $200 à un homme pour tuer sa femme parce qu'elle l'avait surpris en train de draguer et l'avait menacé de ne plus l'aider dans sa dernière histoire de vol. Mais Jim Julie mourra sous les balles du shérif avant d'avoir pu avouer son crime. Thank you. Pearl Younger, la fille de Belle, a bien sûr suffisamment d'argent pour faire enterrer glorieusement sa mère au trou de l'enfer. Elle fait graver une pierre tombale où l'on peut voir inscrit « Belle Starr, née en 1848, morte en 1889 ». Elle y a fait graver une cloche « Belle », une étoile « Star » et un cheval « Vénus », le favori de sa mère. Et il y a fait inscrire un dernier hommage à la reine des bandits. Ne laissez pas couler pour elle une larme amère. Ne laissez pas aller votre cœur à de vains regrets. Dans le cercueil qui gît ici, la pierre précieuse qui s'y trouve brille encore de tout son éclat. C'était un coup de chapeau à Ennio Morricone qui a fait toutes les musiques des films de Sergio Leone. Sergio Leone qui malheureusement a dû signer un de ses derniers western spaghetti. Je n'ai pas la prétention d'avoir écrit le nouveau western spaghetti, mais grâce à lui, nous avons pu connaître la vie de Belle Starr en écoutant des extraits des disques de la musique originale de « Il était une fois la Révolution »,« Le bon, la brute et le truand »,« Il était une fois dans l'Ouest »,« Il était une fois l'Amérique ». Je pense que vous aurez reconnu. Vous êtes toujours sur Remis Ménage, c'est presque fini pour aujourd'hui. Encore quelques notes de musique.
Et voilà, sur ce rythme endiablé, c'est la fin de Remue-Ménage.
Oui, Remue-Ménage, c'est fini pour aujourd'hui. Nous parlions de l'évangile des quenouilles.
Oui, parce qu'un peu quand même de religion, ça ne fait pas de mal. Surtout sur ce temps-là, on en voudrait tous les jours. Vraiment. Et puis, on était au Far West. Où irons-nous la semaine prochaine?
Ou alors ça, alors ça, la boule de gomme.
Allez savoir. Mais là, on sait où vous allez. Vous allez écouter des informels de Radio Pleine Lune, puisque comme tous les mercredis, c'est Onde Femme et ça continue avec les informels, les nouvelles. Ensuite, Cause Toujours, Tu m'intéresses, avec un programme ce soir de Christiane Pergaud. Et ensuite, de la musique de femmes. Romu Ménage, une femme informelle, bref, tout ceci sur Radio Zone 93.8.
Mais juste un petit rappel quand même. Souvenez-vous que si vous tenez à nous soutenir, Radio Zone, une femme, Romu Ménage, les informels, il suffit d'un geste tout simple. Nous appeler au 50 40 51 41 023 depuis la Suisse et laisser votre adresse, nom et tout, pour que nous vous envoyions une carte d'auditrice ou d'éditeur au prix modeste, et c'est le prix de votre soutien, de 25 francs suisses ou 100 francs français. Mais vous pouvez aussi nous écrire à Onde Femme, Radio Zone, 7 boulevard Karl Vogt, 1205 Genève. Et à la semaine prochaine, avec...
À la semaine prochaine, elle disait, avec qui ?
Marianne, Fabienne et Catherine. We'll be right back.